troisième soirée en périphérie du marché de la publicité. Cette année, sous le signe des États généraux, et je remercie très chaleureusement Michel d'avoir pris en charge à deux reprises l'organisation d'un moment comme celui-ci. Il y a quelques semaines, à l'École normale supérieure, sur le thème poésie et enseignement, et aujourd'hui, poésie et nature. Merci profondément, Michel, de la part du marché, et je remercie les intervenants, les invités que tu as choisi d'être là, en particulier les poètes, Sophie Mirazo, Fabien Marcos, mais parmi les universitaires, il y a aussi des poètes, Aurélie, Jean-Baptiste et Martin, et aussi notre personnel.
Et où se cache Pierre-Yves Soucy ?
Et notre ami Michel.
Et Pierre-Yves qui se cache.
Et Pierre-Yves qui se cache, oui, je me disais.
Venez vous installer, vous n'avez pas resté debout.
Non, mais toi, tu es la deuxième. C'est la deuxième. Donc. Mais Jean-Patrice, c'est toi qui animes et tu dois donc occuper une place centrale. C'est toi là. Toi, tu as. Oui, mais tu vas présenter quelque chose comme président de la première table ronde.
D'accord.
Moi, je m'éclipse après. Bah oui, c'est Jean-Patrice qui dirige la table ronde. Voilà, alors donc, merci. Merci à Yves Boudier de nous avoir soutenus dans l'organisation de cette réunion. Merci d'être venu jusqu'ici en affrontant la chaleur. Merci alors à Aurélie Folia et à Jean-Patrice Courtois de s'être associé à moi pour organiser cette rencontre. Merci aux poètes qui ont accepté notre invitation et qui sont aussi, pour quelques-uns d'entre eux, des enseignants, des chercheurs, des éditeurs, des traducteurs, des directeurs de collection, des responsables de revues, et qui témoignent ainsi de multiples façons de leur engagement en faveur de la poésie. Les états généraux de la poésie visent à défendre et à illustrer un genre qui n'est pas seulement un genre, qui est aussi un art, trop souvent marginalisé en France dans le champ littéraire et culturel contemporain, dans les médias, dans la société. Et à l'appui de cette défense et illustration, il fallait réunir au moins une pléiade de 7 poètes. On y est arrivé, mais une huitième voix aurait dû s'ajouter aux nôtres, celle d'une étudiante d'Aurélie, Shan Haddad, qui devait représenter les jeunes lecteurs de poésie, les poètes en herbe, que l'université s'efforce de former, mais qui n'a pas pu venir, et nous le regrettons d'autant plus que cela nous aurait permis de respecter la parité entre les voix féminines et les voix masculines. Ce sera pour la prochaine fois. Quelques mots en guise d'introduction, rapidement, pour situer le contexte de cette rencontre et le thème autour duquel nous l'avons organisé, celui donc des rapports entre poésie et nature aujourd'hui. Pour vous rafraîchir, si les États généraux veulent redonner à la place qui lui revient à la poésie dans la société, ils doivent être, à mon sens, généreux, c'est-à-dire faire place aux préoccupations de nos contemporains. Et la question du rapport à la nature est, bien sûr, une question d'actualité dont l'urgence, les enjeux sociaux, économiques, politiques, mais aussi culturels, n'échappent à personne. Et je me permets de regretter au passage que l'écologie politique ait fait jusqu'à présent peu de place à la culture. Cette question du rapport à la nature me semble avoir été longtemps tenue en suspicion, en France notamment, dans le débat intellectuel. Je me souviens la première fois que je suis intervenu à Paris 7 dans un séminaire pour parler du paysage, je me suis fait traiter de pétainiste, la terre ne ment pas, et on m'a même rapporté à l'idéologie nazie du Blut und Boden. Ça faisait plaisir et de voir qu'avait été oublié un certain nombre de faits que je me permets de rappeler rapidement. Le rôle qu'a joué dans la Révolution française tel ou tel écrivain ou philosophe qui avait placé au cœur de sa pensée la nature, voire Rousseau. Les lettres, oui, Rosa Luxembourg, qui à la veille de la Révolution allemande écrivait dans une de ses lettres qu'elle se sentait beaucoup plus chez elle dans l'herbe, dans un pré entouré des bourdons que dans un congrès du parti. Ou encore un récent candidat à l'élection présidentielle qui plaçait sa campagne sous le signe de la lettre Phi et qui l'a présentée ainsi, je le cite, c'est la lettre qui résume l'harmonie dans la nature. On peut être révolutionnaire et attaché à cette question. En France, elle est revenue en force aussi bien dans le champ de la poésie dont on va parler aujourd'hui, mais rappelons quand même dans le champ artistique. On parle aujourd'hui couramment d'éco-art ou d'éco-d'art environnemental, par exemple, dans la philosophie. Je pense qu'on va en parler très bientôt, dans la critique et dans la théorie littéraire, puisque c'est développé une éco-critique ou une éco-poétique. Dans le champ poétique, je citerai simplement pour un petit peu l'actualité des choses, un numéro de la revue Zone Sensible, qui peut être sur la table avec quelques-uns des livres de ceux qui interviendront aujourd'hui, qui posait la question « Quel sentiment de la nature ?» Pour répondre à cette question, les poètes qui sont réunis ici apportent évidemment dans leur réflexion comme dans leur pratique, dans leur travail d'éditeur, d'enseignant, des réponses différentes. Et cette diversité reflète évidemment aussi la complexité de cette question, la notion même de nature n'étant pas dépourvue d'ambiguïté auxquelles nous sommes peut-être encore plus sensibles aujourd'hui. Peut-on encore d'ailleurs parler de la nature ? Et si oui, quelle est la nature de cette nature ? Faut-il préférer le terme d'environnement ? Quel rapport la poésie peut-elle aujourd'hui entretenir avec nature ou environnement ? Peut-on encore parler d'un sentiment de la nature ? Voilà quelques-unes des interrogations dont nous proposons de débattre dans le cadre de deux tables rondes qui seront suivies chacune d'une discussion avec le public, d'une lecture de poèmes, puisque la question n'a ici pour nous de sens que si elle peut trouver un écho et une résonance dans la parole poétique et dans la voix des poètes. Enfin, la séance sera suivie d'un pot amical et rafraîchissant auquel vous êtes tous conviés. Je vais donc laisser la parole à Jean-Patrice Courtois qui va introduire et qui va animer la première table ronde. Mais avant de lui laisser la parole, s'il le permet, je voudrais le présenter parce que je suis sûr qu'il n'a pas prévu de se présenter lui-même. Et donc, Jean-Patrice Courtois, on va pouvoir éclairer si vous trouvez que c'est pas trop dur. Puisqu'on n'aura plus besoin de ça. Bon.
Si on pouvait supprimer ça de la
roue. Je vais l'étendre.
Ah oui.
Je vais l'étendre.
Mais l'autre, je n'aime pas. Donc, allumer la lumière, je n'aime pas, mais les autres.
Oui, bien sûr.
C'est mieux comme ça.
Surtout, ça autorise les siestes. Moi, c'est
ça fait plus intérieur de maison coloniale cernée par la chaleur et pour l'heure de la sieste, en effet.
Ah, pour les photos.
Ah, pour les photos. Alors, donc, quelques mots sur Jean-Patrice Courtois, qui est maître de conférence à l'Université Paris Diderot, qui a récemment, enfin, il y a quelque temps, soutenu une habilitation à diriger la recherche sur le thème de la théorie des climats, depuis l'Antiquité jusqu'à Montesquieu et au-delà. et qui a consacré une bonne partie de son travail de recherche justement à des travaux sur les rapports entre écologie récemment et littérature. Il a notamment publié l'an dernier, je crois, un article sur Léopold et sur Foro, c'est ça ? Et puis, il anime un séminaire depuis déjà plusieurs années sur littérature, philosophie et environnement. Et enfin, je crois qu'aujourd'hui, il va pouvoir être particulièrement bien placé pour introduire notre première table ronde. Je lui laisse donc la parole. En principe, alors, si le micro vous gêne, on peut enregistrer directement avec ça. Le micro, malheureusement, ne sonorise pas la salle. Si vous entendez mal, au fond, vous vous rapprochez. On n'a plus de sono. Il y en avait une, elle a été supprimée. Pour des raisons mystérieuses que je ne commenterai pas. Bon.
Il ne veut pas travailler. Je vais essayer de parler sans micro, si vous le voulez bien. Est-ce que vous m'entendez, là ? C'est bon ?
Le micro ne sert strictement à rien, je te rassure. Voilà, c'est ça qui est là.
Merci beaucoup. Donc, merci à vous tous d'être là. Merci à Yves Boudier et au Marché de la Poésie. Vincent Gimeneau également de nous accueillir. Merci à Michel d'avoir pris en charge avec Aurélie tout ce travail que nous allons vous présenter maintenant. Et je vais vous dire deux, trois petits mots avant de faire une introduction en vous présentant tout simplement la manière dont on va travailler et mes amis et compagnons de travail. On va faire deux groupes de travail. Le premier est ici installé à la table. Et nous allons, après que j'aurai fait une introduction théorique d'environ un quart d'heure, nous aurons 10 minutes pour chacun d'entre nous pour présenter notre travail de poète et voir comment on envisage ces choses-là. Et puis ensuite une discussion, si je comprends bien. Et ensuite une lecture de chacun de nous quatre de 10 minutes. Puis une pause. Et puis le deuxième groupe de 3 et 4, puisque l'absente est d'une certaine façon présente également, un nouveau groupe composé de Michel Collot, Aurélie Folia, Pierre-Yves Soucy et l'étudiante d'Aurélie, fera la même chose que ce que nous avons fait ici en premier lieu. Alors, tout d'abord, je vous présente rapidement les amis qui m'environnent et qui m'entourent. Si vous voulez, Sophie Loiseau, qui est ici, poète important, qui a publié de nombreux livres qui ont été récompensés par des prix. Prix Georges Perros en 2006, prix Yvan Gol en 2005 pour Environ du Bouc. Le prix 2006, c'était pour La Nue Bête. Également chez Compact, Environ du Bouc, il faut le citer. Elle a aussi travaillé pour les spectacles et des performances. Je note un travail de théâtre et de performance pleine peau à partir d'un travail chorégraphique de Maria Donata d'Urso, qui a été présenté au 104, comme on dit, et d'autres livres, y compris des livres rares, bibliophiliques. Un livre également en collaboration autour de Georges Sand, Albin Fiori, roman inachevé, la trilogie de Diane, dont les livres sont parus chez différents éditeurs, dont Flammarion, La femme lit. Son dernier livre, que Martin doit avoir parce que je l'ai passé, s'appelle Ma maîtresse forme, sous-titre Nature Writing, et est paru chez Champvallon. Fabienne Raffos, qui est ici juste à côté de moi, poète, essayiste, éditrice. Elle a donc, c'est l'une des deux personnes qui dirige José Corti. Elle a fondé 3 collections ici. Une collection poésie américaine, qui a beaucoup fait pour la poésie américaine, et que notre ami Cole Swenson, que je salue, qui est là, connaît bien, évidemment. Une collection biophilia plus récente, directement liée aux questions qui nous intéressent ici, nature, écologie, qui a commencé par un livre majeur de William Bartram, qui est Le voyage en Louisiane, qui est probablement le premier texte d'écriture de voyage et de paysage américain, qui date, si ma mémoire est bonne, de 1797, et dont, pour ceux qui s'en souviennent, et dont Chateaubriand a usé et abusé dans Atala et les Natchez en recopiant et en faisant d'ailleurs du copier-coller. On ne disait pas à l'époque cut-up, mais il a fait à peu près la même chose, on le sait, avec le grand William Bartram. Et puis une collection, le titre, tu me rappelles,
merveilleux.
Oui, merveilleux, collection qui est liée alors à la passion qu'a Fabienne pour les contes et l'oralité. Elle a publié chez Héros Limite, qui est son éditeur, excellent éditeur genevois, 8 poèmes, pendant 1,62, La réponse du ciel dans Poussière au ciel, en hommage aux derniers travaux des ardoisiers des monts d'Arrée, cette fois c'est chez Filigrane, en 1997, et puis chez Héros Limite, Jeux d'oiseaux dans un ciel vide, augure, Terre sentinelle, 2014, et le dernier, Blanche baleine, Héros Limite, 2017. Aussi un livre d'artiste avec Franck Bordas, L'évolution des formes s'étend à toute la couleur, avec des dessins de Yana André Addis. Et puis sa participation au volume Forêt sonore chez Champvallon, récemment paru. Martin Rueff, qui est ici, à côté, poète, philosophe, traducteur. Il enseigne à Genève, c'est un grand spécialiste des Lumières. Et c'est un spécialiste de Rousseau, donc tu l'as dit, Michel, Rousseau et la question de la nature. Il est également poète, comme si quelque chez Compact, Icar crie dans un ciel de craie chez Belin, et un prochain livre important qui arrive, qui aura un lien avec les animaux, la chasse, et dont justement il va nous parler et qu'il présentera à l'instant. Le travail de Martin est également un très grand travail de traducteur sur la poésie italienne, mais aussi sur des textes théoriques anglais. Je ne peux pas ici allonger ce que je devrais dire sur Martin parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, mais c'est évidemment un gros, important travail, une grande œuvre en cours, comme celle d'ailleurs de mes deux amis. Voilà,